Nous allons poursuivre aujourd'hui notre série de prédications sur l'Église. Et la semaine dernière, nous avons abordé la question de l'unité de l'Église à l'occasion du culte du dimanche de Pentecôte. Et nous avons vu que l'unité est à la fois une vocation de l'Église et une espérance adressée à l'Église, l'Église universelle, mais que cette vérité est aussi valable pour les églises locales. Chaque église locale répond de façon singulière, unique, à l'appel de Dieu. Et souvent, ce n'est pas évident, mais on peut se poser la question, quelle est la singularité, quelle est la particularité, quel est l'appel de notre église? Et au sein de l'Église locale, quelle est alors la place de chacune et chacun? Quelle est ma place personnelle? À quoi suis-je appelé? Qu'est-ce que je peux apporter à la communauté et à l'Église universelle? Un des textes les plus importants sur l'unité et la diversité de l'Église, et donc aussi l'unicité, la singularité de chacun de ses membres, un des textes les plus importants pour parler de cela est sans doute l'image du corps développée par l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Et je vous invite à lire ces quelques versets. 1 Corinthiens 12, et on lira les versets 12 à 26. Le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs ou grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint, et nous avons tous bu ce seul Esprit. Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. Si le pied disait « Je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps », il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Et si l'oreille disait « Je ne suis pas un œil, donc je n'appartiens pas au corps », elle ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Si tout le corps n'était qu'un œil, comment entendrait-il? Et s'il n'était qu'une oreille, comment sentirait-il les odeurs? En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu. Il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait en tout qu'une seule partie. En fait, il y a plusieurs parties et un seul corps. L'œil ne peut donc pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». Et la tête ne peut pas dire non plus au pied « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soins que les autres. Celles dont il est indécent de parler sont traitées avec des égards particuliers qu'il n'est pas nécessaire d'accorder aux parties plus convenables de notre corps. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. On applique souvent ce texte à l'Église locale qui est appelée à refléter dans un lieu et à une époque donnée la réalité de l'Église universelle. Mais il ne faut jamais oublier que dans une perspective biblique, dans la plupart des épîtres de Paul, l'Église universelle prime est une réalité encore plus fondamentale que celle de l'Église locale qui en découle. L'idée développée par Paul ici, c'est qu'en tant que corps de Christ, l'Église forme un tout, est une dans sa diversité. Et chaque membre du corps a sa place, son importance, son rôle. Tous les membres sont utiles et complémentaires, pas interchangeables, hein, Complémentaire, ça ne veut pas dire interchangeable. Il y a des dons, des compétences, des vocations, des ministères différents. Cette diversité implique de reconnaître la singularité de chacune et de chacun. Premier point, la force de la métaphore. Alors voilà, on trouve, quand vous tapez l'Église, corps du Christ sur Internet, vous trouvez toutes sortes d'illustrations. Alors celle-là est un petit peu schématique. Ce n'est pas la seule fois où la métaphore du corps est utilisée pour parler de l'Église. C'est le texte qui le développe le plus, cette image. Mais c'est une des images bibliques les plus courantes, si ce n'est la principale. C'est même devenu un concept théologique. L'Église est le corps du Christ. Quand Paul écrit ça, il n'y a pas encore cet arrière-plan de concept théologique à ce moment-là. Il est en train d'utiliser une image tout à fait innovante. C'est lui qui l'a inventée, très probablement cette image, pour parler de la diversité et de l'unité en même temps. Et cette image a tellement été reprise qu'aujourd'hui, quand on dit « oui, l'Église est le corps du Christ », on ne s'aperçoit même plus que c'est une métaphore et que c'est une image. Il y a un philosophe français que vous avez peut-être étudié un petit peu à l'école, Paul Ricoeur, qui justement parle de ça. Il dit « lorsqu'on fait une métaphore, lorsqu'on crée une métaphore, eh bien elle est d'abord vivante, cette métaphore, puis au bout d'un certain temps, si elle rentre dans les usages, elle devient morte. Ça reste une métaphore, mais c'est une métaphore qui est morte. » Et là, on pourrait dire qu'avec cette image du corps, c'est une métaphore morte, puisque on l'utilise presque comme synonyme, le corps de Christ, c'est l'Église, etc. On ne se rend plus compte du côté créatif qu'il y a derrière cette métaphore. Elle est utilisée, cette image, d'ailleurs, de différentes façons dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens et puis dans Romains aussi, probablement. Vous avez cette image de l'Église comme un corps et la tête, hein, par exemple, la tête ne peut pas dire aux pieds ceci, cela. La tête, ce sont les personnes qui composent aussi l'Église. Et un peu plus tard, dans des épîtres que Paul a écrit un peu plus tard, il a perfectionné son image et la tête du corps devient Jésus-Christ. Ça, c'est dans Éphésiens et dans Colossiens. L'image est très parlante et très accessible. Il suffit de se regarder soi-même ou regarder autour de soi et on a l'image directement sous les yeux. Il y a un seul corps, mais qui est formé de différentes parties. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre une oreille, un œil ou un gros orteil? Tout ça, c'est bien différent. Il y a différentes parties dans le corps. Qu'il s'agisse des membres du corps, des organes internes aussi, ce qu'on ne voit pas. Et pourtant, tout est bien relié, tout forme une belle unité quand même. Et tout est même parti d'une seule cellule au départ. Si on transpose la métaphore et qu'on affirme que chaque église locale est le corps de Christ, alors ça nous dit quelque chose de la diversité aussi des églises, de la singularité de chacune. Quand on regarde dans une foule, ou bien tout simplement ce matin, regardons-nous les uns les autres, nous sommes différents. Il n'y a pas deux corps identiques, il y a des grands. Alors, voilà, il y a des grands qu'on connaît bien aussi, parce qu'ils sont vraiment grands, mais il n'est pas là ce matin. Il y a des petits, des gros, des maigres, avec des couleurs de peau, des morphologies différentes, différentes couleurs pour les yeux, différentes formes pour le nez, les oreilles, les mains, etc. Et c'est aussi le cas pour les églises, les différentes confessions chrétiennes. Il y a des différences, une diversité. Tout n'est pas monochrome dans l'Église de Jésus-Christ. Ça dit quelque chose de la richesse de Dieu lui-même, de la diversité qui est en Dieu lui-même. Dieu est certes unique, mais il est en trois personnes. Il y a une certaine diversité, pluralité et beauté au sein même de l'être de Dieu. La métaphore du corps est aussi une invitation à l'émerveillement. Le corps humain est une merveille qui demeure un mystère malgré tous les progrès du point de vue scientifique. Ça reste quelque chose d'incroyable, le corps. Dans l'Église, dans toute Église, il y a aussi une part de mystère qui devrait susciter notre émerveillement, celle de l'action de Dieu dans une communauté si diverse, si variée, voire peut-être même des fois disparate. Cette métaphore nous permet aussi de relativiser les églises. Le corps parfait n'existe pas, comme l'église parfaite n'existe pas. Certains, peut-être, peuvent paraître plus harmonieux, plus beaux, mais même la perception de la beauté est subjective. Il paraît que donc, dans certains peuples, il faut avoir un long cou, par exemple. C'est très, très beau. Ou alors des longues oreilles, ou voilà. C'est assez curieux, mais la notion de beauté même est subjective. Sans compter aussi que dans tous les corps, il y a des dysfonctionnements, il y a des blessures, des maladies, des handicaps dont on est plus ou moins fortement marqué. L'essentiel est ailleurs, à l'intérieur, dans la dignité, la valeur intrinsèque, égale pour toutes et tous, quelles que soient nos blessures, nos handicaps, nos cicatrices. Chaque Église est un corps plus ou moins en bonne santé, plus ou moins harmonieux, jamais parfait. L'Église est un corps qui a ses blessures, ses handicaps, voire ses maladies, mais dans tous les cas, un corps qui est aimé par Jésus-Christ, le fiancé qui aime sa fiancée. Paul va au-delà d'une simple image, l'image devient aussi une fable. Parce que si on revient à la façon dont l'apôtre Paul développe cette image du corps, on se rend compte qu'il va même s'écarter de la notion simplement d'image ou de métaphore pour développer sous forme d'une fable. Et on peut mettre, je pense, la diapo suivante. Ah oui, non, pas encore, mais c'est pas grave. Et voilà. Et parce que les différentes parties du corps se mettent à parler. Alors ça, c'est plutôt dans une fable qu'on voit ce genre de choses. Un pied qui se met à parler, une oreille qui se met à parler. Les dialogues que Paul va imaginer soulignent que l'essentiel dans l'Église va être la qualité du lien entre ces différentes parties, la qualité relationnelle des membres entre eux. Et l'enjeu premier dans une Église n'est pas d'abord comment s'organiser, comment organiser les rencontres de l'Église, c'est d'abord un enjeu relationnel. Comment on se parle? Comment on a décidé de ne pas se manquer de respect, de s'aimer? Et comment on construit quelque chose avec ça? La morale de cette fable, quelle est la morale de cette fable? Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de la métaphore? Et je vous propose donc deux leçons qu'on peut tirer de cette métaphore. La première, inclure et non exclure. Alors tout d'abord, en regardant le dialogue qu'il y a entre ces différentes parties du corps, ça commence de façon un peu étonnante. Si le pied disait « je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps », il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui fait dire ou qu'est-ce qui ferait dire au pied « je ne suis pas une main » et à l'oreille « je ne suis pas un œil » et puis pourquoi surtout ce sentiment d'exclusion ?« Je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps ». Faut-il être une main ou un œil pour faire partie du corps? Évidemment que non, et d'ailleurs Paul va le souligner de façon ironique. Si tout le corps n'était qu'un œil, Comment entendrait-il? Et s'il n'était qu'une oreille, comment sentirait-il les odeurs? Alors, si on essaye de s'imaginer un corps rempli d'œil, etc., ça fait bizarre. Hein, c'est ironique de la part de Paul. Et la première leçon me semble donc être la suivante. On peut se sentir exclu, ça peut arriver, qu'on puisse se sentir exclu de l'Église parce qu'on ne se sent pas comme les autres, ou du moins pas comme ceux peut-être qui sont mis en avant dans une Église donnée. Ce sentiment, en tout cas d'exclusion, que l'un ou l'autre peut ressentir et avoir, doit bien venir de quelque part. Et ça doit nous interroger. Qu'est-ce qu'un bon chrétien, un bon membre d'Église, qu'est-ce qu'on laisse entendre à ce sujet? Qu'est-ce qu'on fait avec celles et ceux qui n'entrent pas dans nos cadres, qui ne cochent pas les bonnes cases? Si vous vous sentez en décalage, différent, voire exclu, soyez les bienvenus. Nous avons besoin de votre singularité au sein du corps. Il y a cette petite image, alors effectivement, l'égalité, voyez, chacun a le, pour voir de l'autre côté du mur, chacun a le même petit cajot sur lequel il peut monter. L'équité, pas tout le monde est à la même hauteur. Et puis l'inclusion, il n'y a plus de mur tout simplement, et chacun est comme il est. Voyez un peu, moi ça m'a parlé quand même. Alors c'est très à la mode hein, de parler de ce sujet. Et on ferait bien d'en prendre de la graine aussi en tant qu'Église. Deuxième leçon, prendre soin. L'autre dimension qui est mise en avant par Paul dans son argumentation est celle de la nécessité de prendre soin les uns des autres. Et on est au cœur du coup de la dimension relationnelle de l'Église. Dans l'image du corps, il y a déjà le constat qu'on ne traite pas de la même manière les différentes parties du corps. Il y en a qu'on entoure de soins particuliers, d'une protection nécessaire, et d'autres qui n'en ont pas besoin. On protège nos parties intimes, et c'est probablement à ça qu'il fait allusion aussi Paul, avec des sous-vêtements. On met une casquette sur la tête pour se protéger du soleil. On va mettre des chaussures aux pieds. Alors, ce matin, il y en avait qui n'en avaient pas, mais... On met des chaussures aux pieds pour se protéger, hein, pour marcher dehors. On protège certaines parties du corps de façon spéciale et d'autres n'en ont pas besoin. Ou si on fait du roller, alors là, on va carrément mettre peut-être des genouillères, des coudières pour éviter de se blesser. La leçon qu'en tire l'apôtre Paul est simple. Il s'agit de prendre en compte les besoins, les singularités, les forces, les fragilités de chacun. Prendre soin de chacune et de chacun en fonction des besoins. L'élément clé de l'argumentation de Paul, c'est le souci les uns des autres, le souci que nous portons les uns envers les autres. Et il a cette expression que j'aime bien, les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. Nul n'est oublié, chaque personne est prise en compte en fonction de ses besoins et des circonstances. C'est un vrai défi, c'est un idéal d'Église, un idéal à rechercher qui débouche aussi sur une double affirmation finale. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. Et là, on a une description de des fois ce qu'on peut vraiment vivre et ressentir, mais on a aussi des progrès à faire. Ça peut nous arriver que quelqu'un souffre et nous n'en souffrons pas. Alors peut-être tant mieux quelque part parce qu'on va pouvoir l'aider, mais en même temps il faut quand même se questionner. Quel est notre degré de compassion, d'unité? Si quelqu'un souffre, est-ce que vraiment je souffre avec lui, comme le dit Paul? C'est un idéal aussi. On le vit des fois, mais pas toujours. Et on peut s'interroger. Et puis quand quelqu'un se réjouit, est-ce que j'arrive à me réjouir? Est-ce que des fois il y a de la jalousie qui m'empêche de me réjouir? Est-ce qu'il y a de l'indifférence? ou est-ce que j'arrive à partager la joie des autres? Ce serait quand même super, ça, en tout cas. Les peines, les partager, bon, c'est peut-être plus dur. Mais alors, les joies aussi. C'est à la fois quelque chose qu'on peut vivre et en même temps un idéal à rechercher. Pour être vraiment un corps riche de la diversité de ses membres, pour accueillir la singularité de chacun, nous avons besoin de ces deux choses, d'inclure et de prendre soin. Or, inclure, ça va même au-delà d'accueillir, c'est accueillir au sens fort, on pourrait dire, et prendre soin. Inclure implique de réfléchir aussi à ce qui peut être excluant, même involontairement dans notre façon de vivre l'Église, notre façon d'accueillir, dans ce que nous disons ou faisons. Une Église en bonne santé est une Église qui est capable de se remettre aussi en question et de changer lorsqu'il y a des faiblesses et des points à corriger. Qu'est-ce qui pourrait être excluant, même si c'est involontaire? Prendre soin implique de travailler à nos relations, nous connaître dans le cadre de relations authentiques qu'on peut construire dans le cadre de l'Église. Il ne s'agit pas forcément d'être proche de tout le monde, mais d'apprendre à se soucier les uns des autres, souffrir avec ceux qui souffrent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et au tout début de la prédication, j'ai posé une question. C'était « Comment trouver ma place dans l'Église ?» Eh bien, la réponse à cette question, c'est en étant qui je suis. En acceptant ma singularité, ma personnalité propre, en m'intéressant aussi aux autres et à la communauté dans son ensemble. Donc les deux choses. Ma place dans l'Église, c'est être qui je suis, mais c'est aussi m'intéresser à la communauté et aux autres. Charge aux autres, à ceux qui sont déjà en place dans l'Église, peut-être depuis des années, d'accueillir, et d'accueillir au sens fort. C'est cela aussi, prendre soin les uns des autres. Amen. Je vais encore prier. Notre Dieu, oui, si nous sommes là ce matin réunis devant toi et que nous avons la joie de nous connaître, de former ce corps local devant toi, c'est un effet de ta grâce aussi que nous avons célébré ce matin. C'est parce que toi, Jésus-Christ, tu bâtis ton Église. Donne-nous de prendre conscience de cette œuvre à laquelle tu nous as appelés construire avec toi. C'est toi qui construis, nous construisons avec toi, nous sommes co-ouvriers dans ton œuvre. Construire l'Église, une Église qui te glorifie, une Église qui rayonne des valeurs de l'Évangile, une Église qui avance, qui prend soin de sa santé, une Église qui change lorsque cela est nécessaire, une Église qui garde confiance, une Église dans laquelle les uns épaulent les autres se réjouissent avec les uns. Amen.